Tout de suite, le grand témoin, Louis Dauphren.
À l'heure où plusieurs membres du haut clergé sont éclaboussés par des scandales de mœurs pour les avoir commis ou ne pas les avoir dénoncés, il y a encore du monde pour pousser la porte d'une église. Et quand celui qui y pénètre s'appelle Gad Elmaleh et qu'il en fait un film, les médias catholiques, mais pas seulement, se jettent sur lui comme s'il faisait une prise de guerre, comme si certains voulaient récupérer une star aussi peut-être. Alors ce n'est pas du tout mon intention ce matin, vous le savez bien. On savait que le salut viendrait des Juifs, mais bon, avec reste un peu, l'Église prouve que son influence ne dépend pas que de ses hiérarchies et que son esprit souffle où il veut. Reste un peu, c'est le titre du film donc qu'il sort demain, à bénéficier d'une couverture exceptionnelle, ce film. Nous y contribuons ce matin puisque donc Gad Elmaleh est avec nous et vous avez reconnu son sourire. En grand témoin donc pour en parler. Bonjour Gad Elmaleh.
Bonjour.
Alors vous allez justement rester un peu une vingtaine de minutes ce matin sur notre antenne quand même, c'est pas mal en radio.
C'est bien.
Et je vous remercie. Donc on va écouter un extrait tout de suite. Allez, c'est votre mère qui vient de découvrir une statue de la Sainte Vierge en fouillant dans vos bagages.
On est au courant de tout, papa et moi. William nous a tout raconté. Et on a vu la Vierge dans ta chambre.
Est-ce que vous fouillez dans ma chambre maintenant?
J'ai fait le ménage dans ta chambre.
Vous avez fouillé dans ma chambre, en fait.
Et on est tombé dessus par hasard.
Tout à fait.
Ah ouais, il y avait un grand
désordre. Et là n'est pas le problème.
Ah, tu fouilles dans la chambre de ton fils et tu vois des choses qui...
Mon fils?
Oui, ton fils.
Mais il renie ses origines, mon fils.
Mais je renie, maman, c'est n'importe quoi. Mais je renie pas mes origines,
absolument. Tu changes de Dieu, change tes parents. Fais-toi adopter.
Ben voilà, tout simplement.
Ouais. Ben voilà pourquoi Dieu m'a pensé à ça avant.
Vous seriez prêt à vous faire adopter?
Pas du tout. Ça dépend par qui, cela dit. Mais c'est marrant parce que vous avez choisi un extrait qui a très peu été utilisé dans les émissions.
Un peu dans la bande-annonce quand même.
C'est un extrait dramatique. Je tiens à dire que donc, ma mère qui joue ma maman, qui joue le rôle de ma maman, cela dit, elle m'aurait jamais pardonné de faire jouer son rôle par une actrice, même par la plus grande des actrices, m'a-t-elle dit. Elle improvise cette réplique. Et cette réplique, elle est dramatique, elle est tragique. Tu changes de Dieu, change tes parents, fais-toi adopter. Et c'est le séisme dans la famille, c'est la tragédie. Et donc, elle n'hésite pas et elle improvise avec ses mots. Et moi, sur le tournage, je suis saisi. Je la regarde, on tourne à deux caméras et je profite en tout cas de ma véritable réaction sur le plateau. Et on le voit, là, on a l'extrait, le sonore qui est déjà assez fort. Mais l'image, on voit vraiment que je suis scotché. Alors, elle a fait ça, c'est des moments dramatiques. Elle a fait ça avec des moments comiques aussi. Puisque chaque, je tiens à le dire, chaque personnage de ce film est joué par... Enfin, les gens jouent leur propre rôle.
Bien sûr, votre sœur, votre père, votre mère, et ça, c'est déjà en soi tout à fait exceptionnel, parce que ça se fait très peu, ça, dans le cinéma.
Oui, ma sœur, il y a une sœur aussi, une sœur, une religieuse, j'entends. Ma sœur, notre...
Le frère Barthélémy.
Notre père, j'allais dire. Notre père, ma sœur, ma mère.
Toute la famille.
Toute la famille. Père Barthélémy est joué par le père Barthes, le rabbin Delphine Horviller et
Alors, excellente la séquence, je trouve, avec Delphine Horviller. Est-ce que vous avez fait un long entretien que vous avez sélectionné? Vous avez sélectionné une séquence particulière? Vraiment, c'est un choix?
On avait un deal.
Ouais.
C'est bien d'avoir un bon deal avec un rabbin. Faut faire attention parce que faut pas déconner. Delphine Horviller, elle a beaucoup hésité avant de faire le film. Et un jour, elle m'a dit, écoute, je veux bien t'accompagner dans ce film-là à une condition. C'est que si la scène, c'est en effet des doutes, des tourments, des questions, je veux y répondre. Mais tu ne touches pas à mes réponses, tu me laisses répondre pendant le tournage exactement comme je te réponds dans la vie. Je lui ai dit oui, donc voici mes questions. Elle m'a dit non. Je les aurai le jour du tournage. Et donc, je suis arrivé chez elle, dans la synagogue dans le 15e. Et puis, je lui ai posé mes questions et elle m'a répondu. Alors, ça a été bien sûr beaucoup plus long que ce qu'on voit dans le film. Mais c'était important pour moi aussi de montrer ce judaïsme éclairé, ouvert, de fraternité, d'écoute.
Qui n'est pas celui de vos parents?
Mes parents sont dans la tolérance, mais dans la tradition. C'est-à-dire qu'on a vécu avec les communautés, mais on va dire qu'on était observants. C'est-à-dire qu'on l'est. Mes parents, ils sont dans la tradition, dans le rite. C'est-à-dire que l'idée, en tout cas, dans le film de cet enfant qui se détourne, c'est vraiment une catastrophe. Et c'est ce qui arrive dans les familles. C'est ça que j'avais envie de montrer.
Mais justement, Gad Elmaleh, sans le refus de vos parents, il n'y aurait pas de film. C'est parce que vos parents coincent que vous vous êtes dit, tiens, je pense, faire un film là-dessus, parce que je ne peux pas changer de religion, en fait. Je ne peux pas partir.
En fait, sans le refus de mes parents, le pitch serait complètement ennuyeux.
Qu'est-ce qu'on dirait? Qu'est-ce qu'on raconterait?
C'est-à-dire que sans le refus de mes parents, on n'aurait pas le film qui s'ouvre tout à coup et qui va au-delà du sujet de la conversion ou de l'appartenance. Et on n'aurait pas, tous les gens qui, tous les jours dans les projections, s'approprient ce chemin-là, quelle que soit leur confession. On n'aurait pas tout ça, on n'aurait pas pu se projeter là-dedans. Et puis ça aurait été une histoire trop singulière, unique. Bon, pas très dramatique. Et c'est un film, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que c'est un scénario, on a un peu scénarisé les choses. Il y a des choses vraies et des choses moins vraies.
Le coup de la statuette, par exemple, où votre père prend des gants pour attraper la statuette de Lourdes. Parce que, je ne sais pas, il a peur que ça lui communique. Voilà, une crainte. Ça, c'est vrai ou c'est fictif?
Non, mais ça, c'est totalement un gag. C'est-à-dire, c'est un gag qui part. Le point de départ, c'est quoi, finalement? Le point de départ, c'est l'interdit qui existe dans la Torah de l'idolâtrie. Le premier commandement, je suis l'Éternel, ton Dieu, tu n'adoreras pas. Alors, je ne le connais pas exactement et je ne suis pas un spécialiste du Talmud. Il faudrait inviter des rabbins ici.
Ils viennent de temps en temps,
volontiers. Et y a l'interdit, l'interdit réel, dans le Talmud, mais de cet interdit qui est réel de la Torah, eh bien, ça s'est pas transformé, mais certaines familles en ont fait une crainte. C'est la chose la plus. Moi, j'avais envie de me moquer de cette crainte, qui est un peu, c'est surdimensionné. J'avais envie de montrer quelqu'un qui est tétanisé, tellement effrayé à l'idée que son fils rentre dans une église, que même la vision d'une statuette de la Vierge, c'est un peu Woody Allenien, quoi. C'est un peu une mise en abîme de la chose. Et encore une fois, c'est un gag. Et d'ailleurs, les gens rient. Catho, juif, musulman, quand mon père n'ose pas toucher à ça ou qu'il ne veut pas rentrer dans l'église, il rit parce que finalement, il est embarrassé, quoi. Ça le met mal. Et il y a des choses comme ça qui me sont arrivées, mais pas à ce point-là, non.
Pourtant, vous commencez le film quand même sur une note qui n'est pas particulièrement drôle. Quand vous dites, par exemple, que vous viviez à Casablanca en bonne intelligence avec les musulmans et qu'il y avait une interdiction absolument formelle, c'était celle d'entrer dans une église. Vous êtes entré dans une église avec votre sœur, vous avez été émerveillé par le sens du beau. C'est d'ailleurs, je pense, une leçon à retenir, peut-être, hein, pour ceux qui nous écoutent. Le beau vous a marqué à ce moment-là. Mais vous ne dites pas pourquoi il y a cet interdit, en fait. Vos parents ne le disent pas non plus.
Non, c'est ça justement qui existe, en tout cas, parfois, dans la tradition, et quelle que soit, encore une fois, la religion. Parfois, on fait des choses, on ne sait pas trop, on construit des craintes. C'est une des raisons pour laquelle je dis beaucoup en ce moment, ce film aide à libérer la parole sur les religions. En France, où c'est compliqué, quand même. C'est-à-dire que... quand vous me demandez pourquoi c'est interdit et pourquoi à ce moment-là et pourquoi je le dis pas, c'est parce que c'est ancré dans la culture, c'est plus la culture de l'éducation que du religieux à un moment donné.
Oui, mais Jésus et Marie sont juifs et vous le dites vous-même.
On en a la preuve.
Je ne renie pas mes origines constamment. Vous dites je ne renie pas mes origines.
Et la Torah était là avant aussi.
Bah oui. Et normalement, ça
vous avez fait un best-of.
Oui, voilà. C'est bon.
Ah bon. Non, non, tout à fait. Mais je tiens à dire ça. Je tiens aussi à dire que j'ai fait ce film pour parler de religion en France. C'est-à-dire que je trouve terriblement gênant l'embarras qu'il y a au nom de la laïcité, à laquelle je suis très attaché.
Les chrétiens sont coincés
et qui me protège. Est-ce que les
chrétiens sont coincés?
Embarrassés, je le dis avec tendresse dans mes spectacles, je me moque même un peu, et je décris en taquinant vraiment avec tendresse les cathos qui s'assument pas, je me moque un peu, parce que j'ai rencontré ça. Je le dis dans le show, dans le spectacle, tu dis à un juif, est-ce que tu es juif? J'ai dit, bien sûr, je suis juif, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu es musulman? Alhamdoulilah, oui, je suis musulman. Est-ce que tu es catho? Alors, c'est un peu plus compliqué, faut que je te parle, viens. Et cet embarras-là, moi, je l'ai découvert. Et c'est parce que tu viens d'ailleurs, c'est que tu es extérieur à la religion catholique que tu peux l'observer. Et tu dis, waouh! Et souvent, les gens, non pas découvrent, mais réalisent à quel point, justement, ils le sont. Mais ça, c'est pas lié avec l'embarras sur les religions. Il est sur toutes les religions en France aussi. Je parle pas dans la pratique et s'assumer. Ce que j'entends là chez les catholiques, c'est s'assumer, pratiquer, parler de sa voix, c'est compliqué. Moi, je parle plus du tabou sur les religions au nom de la laïcité.
On ne va pas parler, Gad Elmaleh, évidemment, de ce que vous dites dans le film, de ce qui se passe.
Attention,
on laissera.
Ne me faites pas comme Michel Drucker qui dit la fin du film je vous laisse aller voir le film.
Ben oui, mais non, ça, évidemment. Ça,
on est en direct.
Exactement, on laissera les points de suspension.
On est en direct.
Mais oui, on est en direct, exactement.
Parce que sinon, Jean-Marie n'aurait pas été content.
Mais oui.
Ah oui, le coup de Jean-Marie, par exemple. Ça, le coup de Jean-Marie, je laisse la surprise.
Bah, c'est une spéciale dédicace quand même, apparemment, au fondateur de cette radio.
Oui, exactement. Bah oui, non, mais on ne va pas tout dire quand même, parce que l'effet dans le film fonctionne.
Je vous remercie, c'est assez délicat. Vous avez fait à moitié Drucker.
C'est vrai.
Vous n'avez pas balancé complètement.
Et je n'aurais pas la même carrière que Drucker.
Un teasing, je vous la souhaite aussi longue. D'ailleurs, il y a une blague qui tourne beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est quel monde allons-nous laisser à Michel Drucker?
Qu'est-ce que vous attendez de l'Église? Est-ce qu'il y a une attente particulière?
Waouh, non.
Et des chrétiens, en règle générale, est-ce que vous leur délivrez un message à travers ce film ou même plus globalement?
Je crois que c'est pas un point de départ. La conséquence, c'est que en effet, j'ai pu montrer, en tout cas, à travers un témoignage de choses vécues, c'est-à-dire les rencontres que j'ai faites, j'ai pu montrer ces personnes de l'Église telles que je les ai vraiment vues et rencontrées. Parfois, j'ai des témoignages de gens qui me disent « Ah, enfin, on parle de l'Église positivement !» Je dis « Non, mais c'était pas
ah, moi, oui, je suis pas
engagé par l'Église, moi, je suis pas... » Mais j'ai rencontré Père Barthélemy dans ma vie, qui est un homme lumineux, à qui j'ai fait rencontrer des rabbins, j'ai rencontré Sœur Catherine, à qui j'ai fait rencontrer Edelphine Horviller, et avec qui on a passé des Shabbats, et avec qui on a vraiment échangé, on a fraternisé. Donc c'est ça que je montre dans le film.
Ça
après,
commence, quand
après c'est drôle parce que chacun essaie de récupérer le truc. En ce moment, je reçois des sollicitations marrantes, mais c'est trop quoi.
C'est vrai?
Bah oui, bien sûr.
De qui?
Bah, des inaugurations de chapelles.
Ah oui, là, vous avez mis le doigt dans quelque chose.
Non, mais en tout cas, j'ai mis le doigt dans j'espère en tout cas pour mettre de la lumière et pour envoyer un message de fraternité encore une fois, un dialogue. Si je suis là aujourd'hui, qu'on est en train de se parler, ben c'est un signe fort et important en tout cas.
Vous auriez fait un film sur une conversion à l'islam. Comment ça aurait été perçu par votre famille?
Il y aurait... Dans le film, il y a une réplique qui est un peu de mauvaise foi quand l'ami d'enfance dit « À la limite, tu te serais converti à l'islam. Je comprends, on a vécu ensemble au Maroc. » Alors il y a un point qu'il faut dire, c'est vrai que la fraternité au Maroc, j'entends bien au Maroc, judéo-musulmane, elle est authentique, forte, vécue, et on se connaissait, les communautés se connaissaient. Mais je pense que c'est faux, je pense que ça aurait été aussi dramatique. Peut-être qu'il y a des points communs pour les séfarades, j'entends, les juifs d'Afrique du Nord, sur le langage, sur la culture, sur le monde arabe. Mais je pense que c'est une catastrophe pour une famille. La perception, en tout cas, de voir partir l'enfant et tout qui s'effrite. Mais dans l'autre sens aussi. Hein. Moi, j'ai des témoignages je ne vais pas vous faire toutes les combinaisons de conversion qu'on peut imaginer, mais de catho à juif, de juif à musulman,
de musulman
à
catho.
On peut faire un algorithme, une app. Converso.com. Non, mais je pense que c'est un truc de mauvaise foi. D'ailleurs, il dit, le personnage d'ami d'enfance, il dit à la limite le bouddhisme. Comme si tout à coup le bouddhisme, c'était un truc un peu soft. C'est du développement personnel. Non, le bouddhisme, il y a des gens qui pratiquent, c'est une religion, et il y a des gens qui se convertissent. Et... Donc,
est-ce qu'au Maroc, vous aviez connu des chrétiens?
Oui. J'avais des copains au Maroc qui allaient au catéchisme. Je ne comprenais pas ce que c'était que ce truc. Surtout qu'ils disaient le caté. Et c'était un mot assez mystérieux pour moi. Ça fait un peu art martial, pas précis. Quand t'es un... Tu sais, les jeunes...
Ouais, le caté, ouais.
Gamins juifs et musulmans, on était là à l'école et le mercredi, t'avais des gamins qui disaient « Non, on peut pas venir jouer au foot, on a caté. » Et on a caté, c'est un mot dans mon enfance qu'on comprenait absolument pas, quoi. T'as caté? Ouais, j'ai caté. Et ils partaient dans leur truc, ils allaient, ça se faisait dans des maisons, pas à l'église, et puis ils allaient au caté, ils revenaient 2 heures après. C'est alors que c'est bon, eux ils faisaient ça un peu de manière assez machinale, quoi. Ils faisaient les préparations.
Est-ce qu'à l'école juive où vous alliez, y avait-il un discours sur le christianisme?
Non. Non, parce que un peu...
Non, mais on aurait pu vous dire, Jésus, voilà ce que ça représente pour nous.
Non.
Ou la Vierge, voilà ce que c'est pour nous.
Non, il y avait l'étude juive, c'était l'étude donc de la Torah, avec l'analyse et les commentaires de la Torah, c'est-à-dire le Talmud, la Mishnah, la Gemara. Moi, j'ai beaucoup appris. J'ai appris, alors de manière un peu... J'étais pas très content d'y aller parce que t'es gamin et tu... Mais aujourd'hui, j'en tire encore des leçons de vie. Qui m'accompagne, des préceptes, des concepts, vraiment, c'est un filtre à travers lequel je vois le monde encore aujourd'hui. Quoi. C'est vraiment l'enseignement du Talmud m'a apporté beaucoup de lumière dans ma vie.
Quelle est la phrase du Talmud qu'on peut retenir spontanément, Gad Elmaleh ? Est-ce qu'il y en a qui vous servent
Il y en a plusieurs, oui.
Pour des sketchs, pour des spectacles, pour parler de la religion, est-ce qu'il y a des méditations ? Est-ce qu'il y a des préceptes qui aussi peut-être peuvent faire des ponts avec d'autres religions ?
J'aime ve'ahavta le're'acha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Ça, c'est dans le Talmud.
Ah ouais. Parasha Kedoshim, l'extrait Vaikra.
Alors, ça veut dire qu'en fait...
C'est pour ça que je suis là.
Oui, mais alors, donc ça ne devrait pas poser de problème, la mobilité spirituelle.
Ah ben, complètement. L'hypermobilité.
L'hypermobilité.
Bluetooth, alors.
Ouais, voilà. C'est ça. Non, mais on est à l'ère du trans aujourd'hui. On peut changer de pays, on peut changer de sexe, on peut changer de métier, on peut changer d'identité, de femme, de
c'est
tout.
Pourquoi
pas de religion ?
Ah ben, c'est une phrase importante pour moi. Et surtout, c'est qui ce prochain ?
Ah oui.
C'est qui ? C'est tout. C'est l'humain. Donc... Oui, frère en humanité, c'est ça. J'ai entendu ça récemment quand je lisais un texte sur Charles de Foucault. Donc voilà, ça c'est une phrase qui m'accompagne. Il y en a une autre qui m'accompagne aussi, que j'adore, c'est « Naase venishma ». C'est « fait et tu comprendras après ». Et vraiment, ça m'a aidé beaucoup dans mon métier, dans mes relations, dans mes... C'est compliqué à comprendre, parce qu'on est tenté par le raisonnement binaire logique. « Ouais, mais moi j'aime bien comprendre avant de faire, j'aime pas faire bêtement. » Non, je fais pas bêtement. C'est-à-dire que c'est la force de la foi qui fait que tu agis et tu comprends après, quoi. Ça m'aide aussi.
J'ai oublié d'expliquer le titre. Enfin, vous allez le faire, parce que Reste un peu, c'est un titre à plusieurs significations.
Ouais, plusieurs...
Pour votre mère, c'est Ne me quitte pas, hein.
C'est joli. Pour ma mère, c'est Ne me quitte
pas. Il y a plusieurs entrées selon les publics.
Oui, alors on est où, là?
Bah là, vous êtes dans une radio généraliste, je précise. Ce n'est pas une radio communautaire.
Créée par le cardinal Lustiger.
Voilà. Mais qui s'adresse au monde entier.
Spéciale dédicace. Bah oui, bah j'espère bien. Et puis, vous êtes écouté dans le monde entier.
Il y a le reste un peu, dit par la Sainte Vierge.
Oui, il y a le reste un peu. Il y a le reste un peu qu'elle me dit et que moi, je lui dis. Et il y a le reste un peu que moi, je dis à mes parents dans la vie. Et c'est rester un peu, quoi.
Ça, c'est une phrase...
On est bien.
C'est une phrase clé, quand vous dites « reste un peu », comment la soupeser spirituellement, cette phrase ? Est-ce que c'est juste un titre comme ça qui paraît un peu superficiel ? Parce que le « un peu », ça veut dire en fait beaucoup, non ?
Le « un peu », c'est la conscience de la complexité de rester, c'est la conscience que c'est pas évident de rester. Le « un peu », c'est la pudeur de la mère, c'est la délicatesse pour ne pas le braquer. Parce que une maman qui voit son fils partir au boulot, à l'école, avec sa copine, avec au fur et à mesure des années, elle fait le un peu pour le sensibiliser en fait. Parce qu'une maman peut pas te dire reste. Le un peu, c'est un peu, c'est voilà. Et moi, pareil, je dis ça à mes parents. Ils sont incroyablement humains et bouleversants dans le film et dans la vie. Quand je suis avec eux, je me dis il faut qu'ils restent un peu parce qu'on sait qu'un jour nos parents, ils nous quittent, ils partent. Mais alors, je leur dis, restez un peu, quoi.
Quand ils ont
mais
vu
là,
le
je
film,
veux rester un peu, là.
Bah oui, on a encore quelques minutes, quand même.
Je reste un peu.
Mais c'est des minutes d'éternité, bien sûr.
Waouh.
Quand vos parents ont vu le film Gad Elmaleh, leur réaction ?
Ouais, plusieurs réactions. D'abord, ce sont des non-acteurs qui se voient sur un écran de 5 mètres par 4, donc il y a un choc. Ensuite, ils n'avaient pas pris la mesure de la force du propos du film et du sujet. Parce qu'ils n'ont pas lu de scénario, comme tous les acteurs du film. Je voulais pas que les gens lisent un scénario. Et je leur ai soufflé des dialogues. Et ils ont été très émus. Mais je dis souvent en rigolant que mes parents, ils vont s'adapter à ce qu'on leur dit. Si des gens dans la rue leur disent « C'est quoi cette histoire-là ? Qu'est-ce qu'il a fait votre fils ?» Ils vont dire « Je sais pas ce qu'il a en ce moment.
» Le montage a été un enfer quand même.
Très dur. Ça a été un montage très très long, des mois et des mois, comme si c'était un film... un grand spectacle, parce qu'il fallait aller puiser dans les prises, les perles de chaque personnage et surtout être vrai. Je pouvais pas m'amuser tout à coup dans le film à avoir une réplique jouée, surjouée. Et les gens jouent leur propre rôle. Et les lieux, c'est les lieux. La messe à l'église, je filme la vraie messe. Le comedy club, je filme du public et moi, je joue mon spectacle. Donc, je pouvais pas... Je pouvais pas... quand je filme un juif orthodoxe qui me met les phylactères, c'est un mec qui connaît. C'est pas un gars qui est un figurant.
Il y a qu'Agnès qui est une actrice.
Oui.
Et Agnès, vous l'aviez rencontrée à Lourdes parce que l'histoire a commencé en fait à Lourdes.
Complètement.
Et elle n'a pas voulu être dans le film.
Elle, même, je pense un peu, j'aurais pu lui dire reste un peu, viens un peu. Non, je pense avec beaucoup de pudeur, de délicatesse, de réserve, comme ça, elle n'était pas à l'aise à se montrer dans un film de fiction. Donc,
pourquoi est-ce qu'elle a compté pour vous, Agnès ?
Parce que c'est une rencontre comme je n'en ai jamais faite dans ma vie, c'est-à-dire que la gratuité de cet acte qu'elle pose quand elle me voit, pour remettre dans le contexte, je suis avec mon fils, on produit le spectacle Bernadette à Lourdes, il y a du monde, il y a plein de gens qui viennent faire des photos, il y a de la joie, mais il y a de l'excitation, il y a du stress, et puis j'essaie de m'écarter avec mon fils pour aller au calme, il y a dans l'herbe et boire un truc et me poser, et puis j'ai du mal, et c'est... Et il y a une jeune fille qui vient vers moi et qui me dit « Je vais aller prier pour que vous trouviez la sérénité et pour que vous continuiez à nous faire rire parce que vous apportez beaucoup de joie. » Et elle part.
Et là, ça a tapé.
Ah mais moi, elle m'a tapé droit dans le cœur. Je me dis « Mais qu'est-ce qui... » Normalement, les gens font ça et tu dis « Elle veut quoi, une photo ? Elle veut me donner son numéro de téléphone ? Elle veut que j'aille inaugurer un magasin de... » Bon, après, c'est la déformation peut-être de penser toujours que les gens veulent absolument vous demander quelque chose, mais... Et donc, je suis bouleversé, je la vois partir et puis je la cherche dans Lourdes. Et c'est compliqué parce que je ne sais pas qui elle est. Et puis, sur une des photos que je prends avec des jeunes, je vois qu'elle est dessus. Et donc, j'écris à ces jeunes, je dis, mais cette personne, comment... Alors, c'est un peu bizarre parce que t'as des mecs qui reçoivent un message de moi qui se dit, où est cette fille, tout ça, genre... Et en fait, je la revois, on se parle, on échange... Et ça devient une inspiration pour le rôle d'Agnès. Et je fais incarner Agnès par Olivia Jubin, une jeune actrice du conservatoire, qui rencontre la vraie et qui apprend à son contact, pas à penser comme elle, mais qui partage avec elle en tout cas. Et voilà la vision qu'elle a en tout cas de la prière, de cette bienveillance incarnée et pas fake, pas...
Elle est très vraie, hein.
Ouais, c'est vraiment une... C'est une, je ne vais pas dire une apparition, ce serait un mauvais jeu de mots, une interprétation, surtout pas à Lourdes, mais c'est, comment on peut appeler ça ? Une révélation, quoi. C'est un moment important, en tout cas, de ma vie, cette rencontre.
Gad Elmaleh, en 40 secondes, à quoi ressemble le salut,
déjà,
en fait. Mais oui, il nous reste 40 secondes, malheureusement. À un moment, vous prenez un petit carnet, il y a le salut d'un côté, puis les inconvénients de la conversion.
C'est un gag. Hein.
Ouais, c'est un gag.
D'ailleurs, je dis...
Oui, mais il y a le mot salut quand même d'un côté.
Oui.
Vous dites, c'est ce qui compte, c'est l'au-delà, c'est le salut de mon âme. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ça compte ? C'est une vraie question ?
C'est-à-dire que c'est la chose la plus. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, en 40 secondes, veut que je parle du monde.
C'est comme un sujet de philo, la mort en 40 secondes.
Mais en philo, ils disent vous avez 4 heures.
C'est peut-être l'idée d'un prochain film, après tout. Bon, on verra. Bon, je laisse la question en suspens, mais la question du salut.
Salut voilà. Salut.
Mais c'est dommage.
Non, mais on se revoit avec des théologiens, on prend du temps. Parce je me garderais bien de parler de ça pendant 20 secondes. Il est dur avec moi. Je ne serais pas content.
Bon, merci d'être resté un peu en tout cas.
Monseigneur de Stiger. Non, mais merci en tout cas. Merci infiniment de m'avoir invité. Je vous écoute souvent.
Il y a une super couverture presse. Ça, c'est incroyable. Et ça, déjà, en soi, c'est un événement. Merci, Gad Elmaleh. Reste un peu. Ça sort demain sur les écrans. Merci d'être venu sur notre antenne nous en parler.
Merci beaucoup.
Et à bientôt, j'espère, pour continuer cette discussion. Pourquoi pas sous un angle spirituel. Et puis,
avec
ça continue avec Marie Folliot et Frère Barthélémy.